Souvenir FM.
Il est midi.
L'invité du 12-13 de Souvenir FM.
Souvenir FM.
Bonjour à toutes et à tous. Merci David pour l'animation musicale. On te retrouve après cette émission comme tous les jours. C'est l'heure de l'invité du 12-13, votre émission préférée, celle qui met en avant vos acteurs locaux, ceux qui vont vivre le territoire. Alors aujourd'hui, nous recevons Thierry Buisson, acteur, comédien, alors, doubleur, on dit artiste de doublage. Comment, c'est quoi le...
Bonjour Jean-Philippe.
Bonjour.
Merci Souvenir FM.
Et oui, alors...
Artiste de doublage.
Artiste de doublage, voilà. Mmh. Alors, c'est une voix que vous allez peut-être reconnaître. Alors, déjà, il est déjà venu avec une autre casquette, celle du Cabreton Aquatique Scafran Keuble. Mmh. Hein, on en a parlé il y a quelques mois. Et puis, voilà. Alors, comment dire, c'est vrai que les gens, des fois, sont surpris, les invités. Je leur demande toujours une petite trajectoire personnelle au début d'émission. Et ça permet de découvrir la petite perle cachée sous le caillou, des fois. Et Thierry en fait partie de ces petites perles. On va passer cette émission ensemble. On va découvrir notre invité, sa voix et son métier. Ses métiers, même, j'ai envie de dire. Mais d'abord, on va écouter le Flash Info national et international. Et on se retrouve ensuite pour la première partie de cette émission. Et voilà, c'est parti donc avec Thierry Buisson. Alors, bien sûr, on peut parler de ton historique, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Ouais, mais en fait, les gens te connaissent, mais ils ne le savent pas encore. Mm-hmm. Et on va leur démontrer de suite. Mm-hmm. Allez, c'est parti.
Dans la guerre que mène la ville de New York contre le crime, les pires criminels sont traqués par les inspecteurs de la division criminelle. Voici leur histoire.
Et voilà. Alors là, je pense que ça y est.
Tan-tan.
Ah ouais, ça y est, le ting-ting là et la voix. Voilà, donc Thierry, comédien, acteur et artiste de doublage. Hein, donc toute une palette de compétences. Donc on va parler un petit peu de l'historique. C'est ce que je demande aussi aux musiciens. Mais c'est pareil, après tout, la voix, n'est-ce pas le premier instrument de musique que le possède l'homme à sa naissance?
Eh oui.
Et oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Je veux dire, à quel moment c'est devenu une envie, un besoin, un hasard, une carrière dans quelque chose qui ressemble à ça?
Alors, il y avait une émission qui était à la télévision, qui s'appelait Au théâtre ce soir, qui était merveilleuse.
Ah, c'était bien ça.
Décor de Roger Hart et Donald Cardwell.
Voilà, Donald Cardwell, bien sûr, c'est vrai.
Ouais. Et ma maman regardait, c'est vrai qu'on avait une télévision en noir et blanc, on regardait ces pièces de théâtre, et je trouvais ça sympathique, et je me suis dit, ça allait, je ne connaissais pas du tout ce métier-là, je devais peut-être avoir une dizaine d'années, et je me suis dit, c'est peut-être quelque chose que j'aimerais faire. Alors j'avais plusieurs passions, c'est vrai que j'avais cette passion un petit peu de la scène que j'avais découvert, j'avais le sport aussi. Donc j'ai pu lier un petit peu les deux. Et puis au fur et à mesure, donc, ça a été plus ou moins le sport au départ avec la plongée dont on avait parlé.
Bien sûr.
En faisant un petit peu le tour du monde, en étant moniteur un peu partout. Et puis un jour, je me suis dit, même un petit peu avant, hein, dès que j'ai pu avoir 16 ans, c'est vrai que j'ai fait partie de groupes de théâtre. J'étais à Bordeaux à l'époque, on circulait entre Bordeaux, Dax et Cabreton. Et donc je prenais des cours de théâtre, on jouait dans des troupes amateurs, etc. Ensuite, donc, il y a eu le sport. Et puis aux alentours de 23-24 ans, je me suis dit, allez, c'est maintenant, il faut se lancer. Donc je suis parti avec ma petite deux chevaux à Paris. Mmh. Et puis voilà, de fil en aiguille, en prenant des cours, le théâtre. Parce qu'à la base, c'est vrai que, comme tu disais Jean-Philippe, ce qui est important, c'est ce qu'on donne avec le cœur, c'est ce qu'on donne avec nous-mêmes, et la voix est effectivement un des premiers instruments. C'est pas parce que je dis je t'aime comme ça, ça va dépendre comment effectivement on va pouvoir ressentir, quel est le message qu'on va pouvoir donner avec la voix.
Bien sûr, oui. Alors justement, la voix, bon, on va pas dire que t'as une voix fluette, petite fille, bien entendu. Alors ça s'est passé comment ça? Parce que des fois, c'est vrai qu'on garde certains souvenirs douloureux, hein, de la mue pour nous les garçons à l'adolescence et tout. Est-ce que t'as un souvenir du passage à une voix d'enfant, ou est-ce que t'avais déjà une voix particulière?
Oui, c'est vrai, tu me poses une belle question.
On remonte dans le temps, là.
Oui, tout à fait. Au moment où il y a eu cette voix, ça a été plutôt positif encore pour moi, parce que il y avait cette voix, mais au moins on m'entendait. Et c'est vrai que j'avais beau être dehors, quand je parlais, on me disait « Waouh, mais c'est bien, on t'entend là, tu es à 50 mètres, je t'entends, tu vois. » Ce qui est pas mal pour jouer au théâtre, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup
un peu, hein.
Les micros. aussi bien qu'un chanteur d'opéra, on voit très bien la puissance qu'il peut avoir. Et au début, c'est vrai que, à la fois on m'entendait, mais c'est vrai que, un peu comme tout le monde, on n'aime pas sa voix, quoi. Encore plus la voix dans un micro qui est un peu différente. Mais la découverte a été plutôt positive, oui.
D'accord. Alors, et le premier contact avec le spectacle, ça, c'est donc le théâtre. Donc, alors, bon, je ne sais pas si on peut faire une liste exhaustive. Je vois que tu as joué Monsieur Jourdain dans Le Bourgeois Gentilhomme, par exemple.
Oh, bah oui.
c'est sympa quand même. Hein,
oui, c'est vrai que c'est vraiment.
C'est truculent, c'est.
Absolument. Ouais, absolument. Ouais. Ah, bah, le grand maître Molière.
Oui, oui.
C'est vrai que c'est assez merveilleux, oui.
Alors, c'est dur de décrocher son premier rôle, parce qu'on a tous un peu en tête, on imagine la trajectoire, hein. Thierry avec sa 4L, avec sa 2 chevaux sous le bras. Mais voilà, de passer de, comment dire, de « Ah, j'ai envie d'y arriver », et puis d'y arriver, ça
prend
du
temps. C'est un métier passion. C'est vrai que c'est un métier passion. C'est un métier où on s'investit personnellement, mais bon... Il y a beaucoup de métiers, où... mais ce n'est pas parce qu'effectivement on va avoir entre guillemets un diplôme qu'effectivement on va pouvoir avoir du boulot dans ça. Alors, au fur et à mesure qu'on fait partie d'un cours, on fait partie effectivement d'un monde avec des copains, etc. Il y en a un qui va devenir scénariste, l'autre qui a envie plutôt d'être réalisateur. On se retrouve quand même dans le cours.
On se fait un réseau.
Et tout doucement, on construit le réseau avec les amis qui sont là et on finit par arriver à bosser. Mais c'est vrai qu'au départ, des fois, on va faire du... Comment on appelle ça ? Dans un supermarché, voilà, on va faire un petit peu de boulot où on va être le présentateur au supermarché, etc. Il faut bien gagner sa vie à un moment donné, mais ça peut être aussi barman. Moi, j'ai fait à peu près tous les métiers que j'ai trouvés. J'ai été monté des parpaings. Dès qu'il y avait une possibilité. Heureusement, j'avais aussi un autre métier, puisque j'aimais le sport, j'étais aussi maître nageur. Donc, un mois ou deux mois l'été, j'allais bosser pour mettre du beurre dans les épinards et dire je continue ce métier.
Ouais, c'est ça. Bon, c'est un peu la même trajectoire que la plupart des artistes, hein, même. Un musicien pour raconter la même histoire, ça. Hein. Et bien entendu, on ne peut pas réduire ta carrière à ta voix. Alors, bien sûr, dans les jobs que tu as fait, la radio, non, parce que quand on a une voix comme ça, déjà, c'est le genre de voix qu'on va utiliser pour faire des jingles. Hein, on va payer des artistes. Ouais. Et quoi, voilà. Ouais. Est-ce que c'est un truc que tu as déjà fait ?
Oui, j'en ai fait un petit peu. J'étais en train de bosser, je crois, à Saint-Martin aux Antilles. Et je sais plus pourquoi j'avais été appelé pour la radio locale, qui m'a dit mais tu devrais faire de la radio, c'est merveilleux, c'est fantastique ce que tu as, etc. C'est vrai que je me suis pas dirigé sur la radio. C'était plus le métier vraiment de comédien vraiment qui m'intéressait. Et en partant effectivement du métier de comédien et en jouant justement des pièces de théâtre, un jour je joue une pièce avec le Jean Reno qui terminait effectivement le Grand Bleu depuis quelques années et je lui dis ce serait bien que tu me présentes à Luc Besson etc. que j'avais rencontré à travers la plongée déjà à Tahiti à l'époque.
La plongée, Luc Besson, il y a quelque chose hein, quand même.
Et oui justement on avait plongé là où on voit au départ les murènes et je lui avais montré comment on pouvait nourrir les murènes et il l'a mis effectivement dans son film au départ. Lui il l'a censé se passer en Grèce et Reno me dit mais écoute avec la voix que tu as fais du doublage ça a été un peu ça un petit peu le déclencheur.
Ah oui voilà c'est ça de passer à peut-être alors quelle serait la proportion maintenant si on faisait un petit flashback sur ta carrière entre l'acteur voix et l'acteur théâtre cinéma.
Moitié-moitié,
d'accord.
Voilà, dans toute ma carrière, puisque maintenant, je suis en fin de carrière, peut-on dire.
Oui, oui.
Et puis, ce qu'on disait tout à l'heure, Jean-Philippe, c'est pas facile pour les jeunes
en ce
moment.
Oui.
C'est pas facile. C'est vrai qu'il y a la fameuse IA qui commence à arriver. Et vous avez certainement entendu parler, vous, les auditeurs et auditrices. Et c'est vrai que c'est pas facile pour les jeunes, oui, effectivement, par rapport à ce métier.
Ben oui, c'est sûr, c'est en pleine mutation,
oui.
Voire peut-être extinction, on verra. Enfin, on espère que les gens vont réussir à s'adapter à cette transition qui est un peu douloureuse. Ah oui, alors je parlais de la voix, du chant, etc. Est-ce que le chant aussi, ça fait partie de tes pratiques ? Est-ce que tu as chanté ?
Alors, j'ai pris effectivement des cours de chant. J'ai joué dans une pièce de théâtre qui était un tout petit peu une simili légère, toute petite comédie musicale. Et c'est vrai que mon professeur me disait « Mais continue dans le chant, là !» pendant 5 ans, tu travailles comme un fou, et puis tu auras du boulot, tu pourras peut-être même travailler à l'opéra, etc.
Oui.
Et puis c'est vrai que ça a démarré plutôt dans le théâtre, et puis j'ai laissé tomber la partie. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, un acteur qui se forme, il va avoir à la fois la comédie, mais il va avoir aussi le chant, il va avoir aussi la danse. Un acteur aujourd'hui vraiment complet, qui veut vraiment mettre toutes les chances de son côté, doit pouvoir aussi bien jouer dans une comédie musicale que dans un théâtre ou au cinéma, qui est effectivement encore un métier, entre guillemets, légèrement différent, bien puisqu'on est quand même souvent face caméra et les expressions ne sont pas les mêmes que quand on est au théâtre.
Et puis on peut refaire et refaire.
Et oui.
Au théâtre, c'est one shot.
Absolument.
Allez, c'est le moment de faire notre première petite pause, un petit peu de musique et on retrouve notre invité. Et voilà, nous retrouvons Thierry Buisson. Donc on est en train de parler un petit peu de sa carrière, de l'historique, un peu la manière dont les choses se sont agencées dans la vie, ce qu'on appelle toujours la trajectoire. Moi j'aime bien ce mot parce que ça fait toujours penser à quelque chose qui n'est pas forcément une ligne droite, hein. Donc c'est rarement le cas, hein, dans la vie. C'est pas plus mal des fois. Théâtre, série télé, jeux vidéo, cinéma, et pub.
Et pub,
ouais,
la foi. Hein.
Donc c'est c'est pas mal ça. Donc on va passer un petit extrait, hein, pas trop long parce qu'on va pas non plus. Et ça sera toujours intéressant de. Alors un truc qui a un rapport quand même avec une autre passion de Thierry.
Warner Brothers Pictures, IMAX et la Géode vous entraînent dans un voyage fantastique sous la surface des mers et au-delà de l'imagination.
Et voilà. Alors donc ça c'est. Alors ça c'était enregistré. C'est pour une. Ça se passe sous. Ça c'est la Géode.
La Géode. Donc c'était la Géode à Paris, mais je pense qu'elle a dû être diffusée puisque ce sont les fameuses IMAX avec.
Et oui.
Je pense que ça a dû être aussi diffusé certainement à Poitiers puisqu'ils ont effectivement.
Oui. Ils ont un gros truc IMAX. Ouais. Ouais.
Donc c'est d'après ce que je connais, moi je suis du côté comédien, mais d'après IMAX, je crois que ce sont des sociétés un petit peu à part sur ces écrans à 180 degrés. Donc je pense qu'en France, je ne sais pas quel est le nombre exact qu'il puisse y avoir.
Il n'y en a pas énormément. Hein,
c'est enregistré en studio comme on est ici, avec un micro, un ingé son, un directeur artistique, le client qui est parfois là, qui est parfois ici parce qu'il veut un petit peu ici, il veut avoir une intonation un peu différente sur cette chose-là, et ensuite il les diffuse.
Alors du coup là, ce travail, la voix, parce que c'est quand même un travail, hein, faut rappeler qu'il y a des cordes vocales, c'est un muscle, c'est fragile aussi, hein. D'ailleurs, Thierry n'a pas voulu boire d'eau froide, il a dit eh non, c'est vrai qu'on passe pas forcément à ces détails là mais c'est vrai que c'est, du coup c'est un peu comme pour les grands chanteurs, hein, on fait très attention à sa voix, hein, c'est
un
outil de travail.
C'est vrai que c'est important puisque c'est à la fois l'outil de travail et puis il faut pas oublier quand même que, je veux dire, on pourrait pas imaginer un danseur venir faire une prestation sans s'être échauffé avant. Et c'est exactement pareil pour la voix. Je veux dire, c'est vrai que c'est important de faire régulièrement, tous les jours, soit des vers, soit effectivement des exercices de diction comme petit pot de beurre, quand des petits pots de beurre riseras-tu, je me des petits pots de beurre riserai, quand tous les petits pots de beurre se des petits pots de bord riseront. Et toutes ces choses-là permettent de travailler ses consonnes, etc. C'est un travail de comédien. C'est normal. Enfin, je veux dire, si vous allez au théâtre et que vous ne comprenez pas la moitié du texte, que autant aller voir un spectacle de mime, donc dans ces cas-là.
Oui, voilà, c'est ça. Au théâtre, il y a. Comment dire, il y a le corps aussi qui est visible. Alors tout ce qui est juste que audio, c'est pas évident. Est-ce que ça implique une implication plus forte, différente, à se dire voilà.
C'est vrai que c'est différent. C'est vrai qu'on le corps, on voit bien notre personnage parce que nous, on est juste, comme on dit, les artistes de doublage. L'artiste qui a créé, il est à l'image. Donc le but du jeu, c'est effectivement d'essayer de voir quel choix il a pu faire, quelle compréhension, pourquoi est-ce qu'il dit ça, pourquoi est-ce qu'on lui fait dire ça, comment est-ce qu'il va l'amener. Donc il y a toutes ces analyses, et c'est vrai que c'est pas un boulot facile parce que il faut le capter assez rapidement. Malheureusement, il y a des contraintes temps et financières, et il va falloir capter rapidement qu'est-ce qu'a voulu dire l'acteur qui est ici. Et on se retrouve, lui, il va bouger. Par exemple, il est en train de courir, il est en train de nager, il est en train de faire une action. Et nous, on est face à un micro. Et si on commence à bouger dans tous les sens, ça fait un peu comme ça. Il y a Jean-Philippe qui va me dire, voilà. Arrête de bouger.
Ah mince, la balance.
Ça fait un petit peu ça.
Et oui.
Donc, à la fois, effectivement, il va falloir donner à travers la voix, alors que la personne est en train de bouger, que nous, on ne bouge pas ou en train de courir. Mmh. Et ça, il va falloir la donner aussi. Donc, c'est un vrai boulot. C'est un vrai boulot d'apprentissage.
Ah ouais, c'est vraiment différent. On ne peut pas dire, tiens, ben, je suis comédien, paf, de jour en demain, je deviens un voix.
Non, c'est, ouais. ça, c'est pas possible.
Oui, bien sûr. Ouais. C'est une spécialisation, on va dire, entre guillemets. Mmh. Oui, alors, comment ça se passe justement pour s'approprier le doublage, un personnage, c'est-à-dire... Est-ce qu'on essaye de s'approcher de son timbre de voix, de son intonation, de sa manière de débiter les paroles? Ou alors est-ce que c'est vraiment de l'impro, quelque chose qu'on peut donner soi-même? Comment ça se passe un petit peu?
Le choix se fait déjà par le casting. Le client, qui est le distributeur en France, ça peut être aussi certains réalisateurs qui demandent effectivement à avoir un casting ou telle personne. Il va y avoir un directeur artistique et ensuite c'est le client qui va quand même dire moi je préfère cette voix que celle-ci, etc. C'est vrai qu'un personnage ne nous appartient pas. Mm-hmm. On peut pas dire tiens, c'est pas parce que je double tel personnage que je vais le doubler toute ma vie, ça va être ça. Bon, il y a eu des rencontres exceptionnelles comme Bruce Willis qui effectivement ont presque mieux fonctionné en France et ça a toujours été la même voix qui a été doublée.
Ouais.
Mais une fois qu'on a été choisi, c'est vrai, pour s'approprier, il va falloir... Est-ce que c'est un personnage que je n'ai jamais doublé? Est-ce que c'est un personnage que je ne connais pas? On va voir. C'est vrai que plus le comédien est un comédien d'une grande pointure, on dirait, plus ça sera facile à le doubler, parce que il a fait des choix, c'est précis ce qu'il va faire. C'est sûr, quand vous voyez quelqu'un comme De Niro, c'est sûr que c'est une précision chirurgicale. À nous, effectivement, de respecter. Dieu sait si c'est pas facile de respecter complètement sa notion elle-même émotionnelle et de choix qu'il a pu faire.
Ouais, c'est un petit peu comme quand on est traducteur d'un livre, d'un roman.
Et oui.
C'est difficile. Il faut essayer de pas trahir l'original.
C'est ça.
Tout en faisant quand même une interprétation parce que c'est la même langue. C'est pas évident. Hein. Je pense que c'est très difficile.
Oui. Justement, c'est un métier en amont. Il y a des gens qui vont détecter effectivement les ouvertures et les fermetures de bouche. Ça, c'est tout un travail de détection. Ensuite, effectivement, il va y avoir un traducteur qui va donner, ou une traductrice qui va donner une traduction littérale. Et ensuite, derrière, vous avez l'adaptateur ou l'adaptatrice qui va effectivement pouvoir à la fois coller effectivement les notions qu'on va pouvoir faire passer dans la langue avec les subtilités qu'avait la langue étrangères pour pouvoir les faire passer. Et ensuite, il y a des contraintes, effectivement, les ouvertures et les fermetures. Oui, c'est un vrai métier, l'adaptateur.
Non, mais c'est intéressant parce que voilà, c'est des sujets dont on parle pas souvent.
Oui.
Surtout, c'est vraiment passionnant. Ben, c'est le moment de faire une deuxième pause. On va écouter le Flash Info local et on retrouve ensuite Thierry. Et nous voilà de retour avec Thierry. Alors oui, on parlait de cette appropriation là de la voix de la personne qu'on double, les problèmes techniques, c'est quand même un travail pas évident. Je vais mettre un petit extrait d'une série télé qui est quand même assez connue, vite fait.
Je me suis remis à fumer. C'est ta faute, ça, mon vieux.
Voilà. Alors là, c'est intéressant aussi parce que, comment dire, on entend aussi la partie, pas que ce qu'on fait vibrer ses cordes vocales, mais aussi la partie souffle, tout ça. Hein, c'est aussi un outil, un des instruments, un des outils qu'on peut utiliser pour faire sa présence. Là, dans la scène, le comédien fume.
C'est ça.
Vous n'avez pas fumé, là. T'as pas fumé, là, pour le...
Et non. Ça va être juste... Ouais. On va le voir ici, un simple souffle suffit, même l'ingé son va dire ah non mais là si tu me fais comme ça, on voit bien ça va saturer, donc on souffle souvent sur le côté comme ça, ça suffit amplement.
Quitte à ce que l'ingé son se débrouille après en post-prod à rattraper.
Aussi, mais tant qu'à faire.
Alors comment ça se passe, parce qu'on a déjà vu, on a tous vu plus ou moins à la télé des extraits de comédiens qui font des voix, alors on voit, il y a un écran, en dessous il y a une... Une bande avec...
Voilà ce qu'on appelle la bande rythmo, qui a, mm-hmm. Qui a encore quelques années été une vraie bande, où effectivement, il y avait une personne qui, effectivement, ce qu'on appelait un ou une calligraphe, souvent des femmes qui écrivaient très bien à la main, parce qu'on voit très bien que c'est plus facile de lire rapidement, effectivement, quand c'est calligraphié, que ça soit très doux et que ça soit plutôt que des lettres qui sont en majuscules ou en minuscules. La typographie était importante.
Ah oui.
Donc, il y avait vraiment tous ces métiers qui se faisaient. Il y a bien sûr le directeur artistique qui est là, mais une fois qu'on est effectivement dans le studio, bien sûr, il y a l'ingé son qui est très important aussi, puisque c'est lui quand même qui règle tous les micros, etc. Et ensuite, bah, y avait cette bande, la bande rythmo, c'était une petite bande blanche qui faisait 2, 3, 4 centimètres de hauteur, un petit peu comme avec des trous et un petit peu comme un film en 16 ou en 35 millimètres, sur laquelle la personne écrivait, et il fallait écrire bien de façon à ce qu'il y a la bouche ouverte, la bouche fermée, etc.
Il fallait au niveau du temps.
Alors maintenant, bien sûr, la bande rythmo, entre guillemets, existe toujours, mais elle est virtuelle.
Oui, c'est ça, c'est forcément numérique. Oui, parce que là, le placement, il faut que ce soit bien placé, qu'il n'y ait pas une dérive, parce que... Alors, c'est à quel rythme, d'ailleurs, les prises de voix, c'est-à-dire dans une série ou un film, on fait pas one shot 2h50 de film, j'imagine. C'est quoi, c'est par scène, par plan que c'est découpé le travail?
Oui, habituellement les scènes peuvent être longues, donc on va les découper sur environ 30 secondes ou une minute. Et là on va parler un petit peu de finances, puisque qu'est-ce qui va se passer? C'est sûr que sur un long métrage où il y a quand même habituellement beaucoup plus de finances, la détection va être encore plus soignée que sur une série télé, l'adaptateur va pouvoir travailler encore plus longtemps, peut-être plusieurs semaines, jusqu'à un ou deux mois sur un long métrage d'une heure et demie ou deux heures. C'est sûr que sur une série télévision, il n'y a pas les mêmes budgets, donc ça va aller un petit peu plus vite, et ça va aller plus vite même pour le comédien. Sur un long métrage, on peut mettre d'une semaine à deux semaines pour vraiment travailler chaque ressenti, chaque émotion de chaque chose. Et sur une série télé de 52 minutes, comme on a vu sur New York Section Criminelle, c'est dans la journée, tout est fait.
D'accord. Ah oui,
donc là, il y a intérêt. C'est ce que je dis aux jeunes. Je dis, commencez par démarrer à faire un petit peu comme on fait un petit peu au cinéma. Faites de la figuration. Faire de la figuration, ça veut dire quoi? C'est le barman qui vient pour faire le doublage ici, qui est le personnage et qui dit, voici monsieur, voici votre plat.
Oui.
Voilà, on commence par des petites choses, et puis comme tout, hein, et puis ensuite, pour avoir ensuite un rôle principal, c'est sûr qu'on ne peut pas démarrer directement sur un rôle principal. C'est un casse-gueule, quoi.
Oui, puis, non, mais c'est intéressant justement d'écouter tes explications, parce que bêtement, comme ça, quand on ne connaît pas, on dit, ouais, bon, en fait, il lit un texte qui défile
c'est un karaoké.
Ouais, c'est ça, voilà. En fait, oui, c'est vrai, c'est une sorte de... On pourrait imaginer une sorte de karaoké.
Mais parler.
Mais effectivement, qu'il y a un travail de comédien à faire.
Oui, moi
un vrai travail, quoi.
Quand des jeunes me disent, ah, moi, j'ai toujours aimé, j'aimerais bien faire ça, je lui dis, mais commence par prendre des cours de théâtre. Déjà, dans ta région, regarde un petit peu ce qu'il y a. Est-ce qu'il y a un conservatoire? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont, entre guillemets, agréées pour que tu puisses passer peut-être certains concours comme le TNS à Paris, à Strasbourg, le Théâtre National de Strasbourg, à Lyon, l'ancienne Morue Blanche, ou bien le summum étant le conservatoire, effectivement, d'art dramatique à Paris. Une fois que tu auras vraiment consolidé vraiment ton travail de comédien, après tu peux diversifier. Ça peut être, comme tu dis, pourquoi pas venir travailler à la radio, peut-être faire du doublage, peut-être partir sur de la pub, peut-être faire autre chose, etc. Mais tu ne pourras pas partir sans avoir effectivement ce bagage vraiment, comment je vais pouvoir me libérer, comment je vais pouvoir m'exprimer, comment je vais pouvoir libérer mes émotions. Et c'est vrai qu'on l'entend très bien, il y a Emmanuel Curtil qui double Jim Carrey. Si vous regardez un petit peu à un moment donné, je crois que c'était pendant les Césars et de cette année, et il est clair, c'est-à-dire en fin de compte, il vient, il rencontre, c'est la première fois que Emmanuel Curtil rencontre Jim Carrey, qui double depuis le début. Et il s'adresse effectivement à Madame la Ministre qui vient de la Culture, qui vient d'être nommée le matin même ou la veille, et il dit vraiment quelque chose qui est très important, c'est-à-dire des voix humaines pour des humains avec des émotions humaines, pas avec effectivement de l'IA aujourd'hui.
Mais oui, ça c'est aussi c'est un sujet qu'on peut pas qu'on peut pas contourner. Hein. C'est vrai que c'est un sujet de société et puis aussi voilà qui concerne plus de manière plus prégnante certaines professions. Et c'est vrai que il commence à y avoir des gens qui commencent à faire des petits, voire bientôt ça sera des grands films avec juste un réalisateur à la limite, un metteur en scène peut-être parce que lui il choisira comment on va placer les points de vue, etc. Enfin son job. Hein. Mais puis point. C'est-à-dire 150 personnes, 200 personnes en aval qui ne seront plus sollicitées. Et bien sûr, les voix et les comédiens, puisque tout ça sera des images faites. Voilà, donc comment est-ce que tu perçois ça pour toi déjà, bon, tu te sens moins concerné parce que tu es plutôt en fin de carrière et tu penses avoir fait ton job, mais les jeunes, là, c'est chaud.
Oui, 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 je vois bien avec les amis, les jeunes, même des amis qui sont pas très loin de la retraite, c'est vrai que c'est pas facile. L'IA elle est est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, elle est pour l'instant, c'est vrai qu'elle est en développement. Ce que demandent vraiment tout les syndicats d'acteurs aujourd'hui, c'est certain que c'est que tous ces systèmes d'IA et ont besoin d'être nourris. Par, effectivement, quand ils vont sortir une voix IA, entre guillemets, il y a eu des milliers de voix qui ont été effectivement enregistrées.
Et, oui.
Et ce que demandent au moins les syndicats, c'est de voir qu'effectivement ces gens, dont c'est le métier, que ces voix ne soient pas pillées gratuitement. Oui. C'est ça qu'on demande au gouvernement aujourd'hui, de façon à ce que tout ça soit légiféré. Je pense, je ne suis pas trop au courant de ce qui se passe exactement aux États-Unis, mais je crois qu'ils ont déjà légiféré.
Oui, oui.
Et pas, malheureusement, en France, ça n'a pas été légiféré. C'est pas normal. C'est un peu comme si, en fin de compte, on vous dit, mais maintenant, vous êtes boulanger. Et en fin de compte, maintenant, moi, je vais me mettre en face et je vais utiliser votre four, votre farine, et je vais mettre ici, et puis ça va être gratuit. Voilà, maintenant, et puis vous n'aurez plus de clients.
C'est ça la
grosse problématique. L'IA existe, oui. Je pense, effectivement, enfin je l'espère, que la machine n'arrivera jamais à remplacer l'humain, au moins pour le côté émotionnel, pour le côté pour le côté sensibilité, de la sensation de recherche émotionnelle qu'on va pouvoir avoir sur la voix.
Ben j'espère. Moi je milite pour qu'il existe un label sans IA.
C'est
pas forcément la bannière, mais ça existe pour le label rouge pour le poulet. C'est-à-dire que le consommateur, lui, il a le droit de savoir ce qu'il consomme, ce qu'il paye et ce qu'il écoute. Et donc, à la limite, si on veut laisser faire de l'IA, mais qu'il y ait un label en disant, ben voilà, ça s'est fait sans IA, moi j'aurais le choix d'utiliser que ça. Voilà. Ça, moi je pense, je sais pas si c'est en cours ou dans des discussions, mais je pense que ce serait une manière de rendre les choses un peu plus cohérentes, en tout cas. Voilà. Et alors, est-ce que dans ta carrière, tu as eu des rencontres avec, par exemple, des gens doublés, etc. Parce que, alors, on peut imaginer, comment dire, j'ai une star américaine, elle a peut-être, je sais pas, 35 versions différentes, qu'elle n'a pas forcément une affinité avec tous les gens qui la doublent. Est-ce que c'est déjà arrivé, ça? Est-ce qu'il y a des conventions, des rencontres? Comment ça se passe?
Vincent D'Onofrio, là, dans New York Section Médiaire, j'ai failli le rencontrer, et c'est vrai que je ne l'ai jamais rencontré. On est nés la même année, un mois après, c'est vrai qu'il y a plein d'affinités qui sont là-dessus. On ne rencontre pas obligatoirement, comme tu dis, parce que les acteurs aussi font leur boulot aussi bien dans les pays étrangers. Mais est-ce qu'ils ont une affinité plutôt avec la France ou l'Espagne ou l'Italie? Ça arrive, effectivement. Quand on voit donc Emmanuel Curtil, dont je parlais, là, qui double Jim Carrey, c'est vrai que depuis, je dirais peut-être 30 ans qu'il le double, il ne l'avait jamais rencontré. Voilà, ils se sont rencontrés pour la première fois. Ce n'est pas toujours évident.
Oui.
Ça dépend des rencontres.
Ça va faire quelque chose quand même. Peut-être moins pour le comédien lui-même qui se fait doubler parce que bon, il va pas écouter la version étrangère a priori. Mais l'inverse, la personne que pendant des années on a essayé de la suivre, on lit ses lèvres, etc. Enfin voilà.
Ah, on a l'impression que c'est un frère, quoi.
C'est ça.
Quand il parle, au fur et à mesure des années qu'on double la personne, c'est vrai qu'on a l'impression de retrouver un frère, un fils, un alter ego. Un jumeau qui est là, parce qu'on voit, en fin de compte, cette possibilité de respirer, etc. Et c'est là que ça devient intéressant, et c'est là où parfois, effectivement, le distributeur va choisir une autre voix qui ressemble, parce que c'est un comédien qui est là à l'écran. Et quand le comédien va jouer, il va pas jouer la même chose s'il joue un film d'action. Je parlais de De Niro, le travail va être différent, comme au théâtre. Je veux dire, c'est pas parce que cette personne, ou un soir, va avoir effectivement cette décision, mais en fin de compte, le travail du comédien, c'est un caméléon.
Oui, donc, c'est ça. Par définition.
On voit parfois des voix, effectivement, ou des comédiennes américaines qui sont vraiment des caméléons qu'on arrive à peine à reconnaître dans un rôle où on a oublié la personne. Parce c'est un petit peu ça. C'est d'oublier, même si c'est une star, et de voir le personnage qu'ils incarnent. C'est pareil dans le doublage. Le jour où, effectivement, vous écoutez quelque chose et vous dites que c'est bizarre, etc. Et vous oubliez que c'était la voix de Jim Carrey ou de De Niro ou peu importe de cette voix. Et vous avez oublié effectivement ça. C'est qu'effectivement le boulot a été bien fait.
Et oui, très bien. Eh bien, on va faire déjà une dernière petite pause et on retrouve ensuite Thierry pour la conclusion de cette émission. Et nous voilà de retour avec Thierry. Mm-hmm. Alors les jeux vidéo aussi. T'as fait les jeux vidéo.
Oui.
Alors, bon, voilà, pour des fans qui un peu gamers.
Ah,
David, qui n'est pas très loin, est un gamer aussi. Donc, je vois par exemple Witcher 3, Star Wars. Là aussi des bangers, ça, en jeux vidéo quand même. Ça fait partie de la culture populaire. Hein, par contre, ce boulot-là, ça se passe comment? Ça va être un peu différent.
Alors, oui, c'est différent. Alors ça, surtout, ce qu'ils veulent, c'est la partie où, en fin de compte, on ne doit jamais communiquer en extérieur, parce que effectivement le jeu il est pas encore sorti, puisqu'on est en train de doubler la partie française, etc. Donc on signe tant et plus des papiers, faut pas en parler, ni sur un mot ni sur un personnage. Donc en fin de compte, ce qui se passe souvent, c'est que des fois on a même pas l'image. Parce qu'ils veulent pas qu'on ait l'image.
Ah
oui. On a la voix d'un retour, effectivement, de soit de l'acteur américain ou anglais ou étranger qui va faire ça, principalement, effectivement, américain. Parce que ça représente, je crois, financièrement beaucoup, beaucoup, beaucoup d'investissements et beaucoup d'argent.
Plus que le cinéma, maintenant, la jeu vidéo.
La vidéo
représente plus d'argent que le cinéma.
Ouais, c'est assez fou.
Ben oui.
Et donc, il y a ces voix. Alors, parfois, on a parfois même pas la voix de base, c'est-à-dire l'acteur américain peut-être est en train de le faire aussi, puisqu'ils veulent sortir les jeux vidéo de façon simultanée un petit peu partout. Et c'est assez fatigant, par contre. C'est souvent assez fatigant, parce que si là je vous crie ici, ça va vous casser les oreilles.
Oui. Mais quand on fait des voix comme ça, qui sont là...
Vous voyez bien, ma voix, à un moment donné, au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure, si je l'ai pas chauffée, etc., je finis par commencer à tousser. Et il m'est arrivé de sortir de studio sur des séances de 2 heures, parce que 2 heures, c'est déjà bien sur du jeu vidéo, et en étant à faune pendant 24 heures, quand même. C'est parfois un travail qui est difficile.
Oui.
Pour moi, qui est difficile, qui demande beaucoup, beaucoup, beaucoup sur la voix. C'est très rare quand on est posé, qu'on raconte une histoire. On voit bien, il y a de l'action, il y a énormément de choses.
C'est souvent un peu guerrier, les jeux vidéo.
Ça m'a l'air
pas
d'être
toujours,
assez
mais souvent.
Souvent, oui. Pas toujours, mais il peut y avoir des jeux de cartes, mais effectivement...
Et puis, c'est sur des gens qui sont comme ça, qui parlent. Puis,
ayant déjà la voix grave, on me demande de l'aggraver encore plus.
Et oui.
Donc, ils demandent effectivement de travailler un petit peu plus.
Et alors, en termes de voix, justement, c'est quoi la palette? Est-ce que vraiment... comment dire, on voit quand même voix grave, etc. Est-ce que tu arrives à faire des voix aiguës un petit peu?
Oui, comme ça, un petit peu. C'est vraiment trop injuste.
Ça fait drôle.
Hein. Mais qui c'est le monsieur?
Mais c'est pas moi, alors.
Oui, bien sûr, on a une palette comme dans le chant. On va pouvoir effectivement monter, descendre. Bah oui, il va y avoir le travail du dessin animé. Là, là tout le monde s'est amusé, effectivement, à tenter de...
Toi là qui est là, il dit le petit canard. Mais oui, mais c'est trop mignon le petit canard.
Ah oui, bon, on a ça en direct, au moins c'est sympa.
Voilà, tout à fait.
Alors techniquement, à chaque fois qu'il y a un projet, est-ce que des fois ça t'arrive de faire des prises de son chez toi? Est-ce que tu as du matériel, micro, carte son, ordi, cabine ou
Alors justement, oui, puisqu'il y a eu le Covid en 2020, ça a été très très compliqué. Parce que malheureusement, malheureusement en France, c'est vrai que tous les grands projets de séries télévision, cinéma, etc. se font exclusivement à Paris.
Évidemment.
Donc il faut faire les allers-retours, etc. Je sais qu'à Bordeaux, il y en a un petit peu. Je sais qu'à Lyon, il commence à y en avoir un petit peu. Mais c'est vrai qu'étant donné que les distributeurs, que les producteurs, etc., tout le monde est plus ou moins centré sur Paris, c'est vrai que c'est plus facile, effectivement, de se retrouver là-bas. Et tu me disais, ta question était ?
Eh bien, c'était justement, est-ce que c'était toujours, il fallait toujours se rendre à Paris ou justement, des fois, c'est pas arrivé qu'il y ait des projets qui soient, ben, on peut s'enregistrer
comme oui, pour faire un podcast à la maison. Alors, c'est vrai que j'ai eu un micro, mais c'est vrai que moi, je suis pas un gesson, et c'était pas facile à régler, surtout qu'il fallait effectivement aussi faire parfois en direct, à partir du moment où on est effectivement en doublage, donc... Tant qu'on fait effectivement un documentaire, effectivement, on va avoir une lecture image, un documentaire animalier, etc. Ça va passer. Mais en doublage, c'est vrai qu'il faut être collé. Et c'est vrai que ça a été compliqué pour moi parce que j'avais pas assez de réseau internet aussi. Il y avait cette partie-là. Donc, effectivement, quand on fait ce qu'on appelle nous un retake, c'est-à-dire il y a eu un mot, une phrase à refaire, etc., et que moi je reviens dans le Sud-Ouest. Je vais effectivement dans un studio d'un ami, tout simplement, qui lui a la cabine, il a tout ce qu'il faut et on peut l'envoyer aujourd'hui là-dessus. On le fait pas en direct, c'est ça la différence, mais on peut l'envoyer.
Oui, bien sûr. Oui, parce que, effectivement, bon, tu as aussi une autre passion, hein, c'est l'océan. Hein, ça, et donc, forcément, tu n'habites pas à Paris, tu habites ici. Et donc,
absolument.
Ça t'oblige à faire pas mal d'allers-retours.
Oui. Bah, à l'époque, il y avait encore la Palombe Bleue. Alors, je ne sais plus si elle existe.
Oui, la Palombe Bleue.
Et c'était merveilleux. On avait les enfants ici, c'était très bien. Je pouvais partir à minuit et demi. On arrivait à Paris à 7 heures, frais, dispo, une petite douche. Il y a même les douches directement à la gare d'Austerlitz. Studio 9h30, les horaires de doublage sont souvent 9h30, 13h30, 14h30, 18h30.
D'accord.
Ça a beaucoup évolué, bien sûr, aussi. Parce que moi, quand j'ai commencé le doublage il y a 35-40 ans, c'est vrai qu'on arrivait pour la demi-journée ou la journée. On ne savait pas quand on allait passer. On arrivait à 9h30 et on passait des fois à 12h15.
Oui.
Aujourd'hui, les jeunes disent « Oh là là, mais tu ne vas pas assez vite », etc. Aujourd'hui, c'est un par un. Et puis, bien sûr, il y a tous ces systèmes électroniques, informatiques, etc. La personne vient juste pour son rôle, peut venir simplement une heure pour enregistrer. Oui. Et puis, c'est un autre comédien. On a perdu un petit peu de chaleur, je trouve, parce qu'on était parfois 4, 5, 6 au micro.
Oui.
On se répondait, etc. Aujourd'hui, la réponse, on l'a juste dans le casque. On n'a pas la présence de la personne vivante. Voilà, il y a tout ça qui a évolué. Il a fallu s'adapter et ça fonctionne aussi.
D'accord. Alors, est-ce que tu as toujours des projets en cours ?
Oui. Oh bah,
rien de confidentiel, mais...
Moi, j'aimerais bien remonter le théâtre. C'est vrai que je me suis occupé du théâtre de un des groupes de théâtre d'Osegor pendant une vingtaine d'années. Là, pour l'instant, on est un petit peu en stand-by. Mais c'est vrai que j'aimerais remonter un peu moi-même sur les planches. Donc, je n'ai pas encore choisi de projet. J'informerai Souvenir FM dès qu'effectivement, il y aura...
D'accord.
Il y aura un projet qui me tient à cœur, que je pourrais jouer dans la région.
D'accord. Et en ce moment, est-ce qu'il y a quelque chose en cours, une série, un film, quelque chose ou non ?
Non, en ce moment, effectivement, il m'arrive effectivement de remonter pour des amis qui font effectivement du documentaire. Donc, on ne sait pas. Hein. Je veux dire, c'est ça le côté merveilleux du métier. J'arrive, je ne sais pas ce que je vais faire. Je sais bien sûr qu'on va enregistrer, mais je ne sais pas si c'est une série ou si c'est un documentaire sur un crime, si c'est un documentaire animalier, si c'est un documentaire. On a très peu de choses en amont, à part effectivement quand on va faire encore une fois un long métrage où on a la possibilité de regarder le film, etc., ou la série et de voir ça. Mais voilà, pour l'instant... Quand j'y vais aujourd'hui pour faire des choses, c'est souvent du documentaire ou de jeux vidéo, mais en de moins en moins. Là.
D'accord. Eh bien, nous voilà arrivés à la fin de cette émission, Thierry. Ben, c'était très sympa parce qu'on n'a pas souvent l'occasion d'aborder ce genre de sujet. Hein, c'est vrai que... Et puis, j'allais dire que la voix, ça nous concerne à nous directement.
Ah,
Dire, on fait du bouche à oreille, c'est notre métier.
Eh oui.
Hein, on peut dire ça, en passant par les ondes, en tout cas, ou par le stream. Et donc, c'était sympa d'entendre une voix. Et en plus, comme je disais tout à l'heure au début, c'est... Une voix ben en fait, qu'on a dans l'oreille à un moment donné, on ne se rend pas forcément compte. Ah mais tiens, mais ça me dit quelque chose. C'est vrai quand on s'est rencontrés là, il y a quelques temps, tout de suite, en faisant les balances, je dis « Oh, on a un truc là
!» Je le vois en allant chercher mon pain et que je demande à la boulangerie. Les gens se retournent, je vois bien leur regard, ils me disent « Mais je le connais lui, mais pourquoi il y a quelque chose qui me dit quelque chose ?»
Surtout quand c'est la voix qui est plus connue, bon, forcément, le physique, c'est toujours étonnant d'ailleurs de rencontrer le physique d'une voix parce qu'on se fait tous une idée. Voilà quoi. Donc je sais que les gens, quand ils viennent à la radio, sont très déçus quand ils me voient parce que ils sont déçus. Voilà, c'est comme ça. Parce que j'ai un physique à faire la radio, bien entendu. Eh bien, merci beaucoup, Thierry. C'était
merci
très
Jean-Philippe.
Sympa.
Merci, Souvenir FM.
Merci beaucoup. Et puis, j'ai envie de dire. Adi Schatz.